VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 juillet 2018, en direct de Washington, Idrissa Seboulia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, le Premier ministre menace de sévir contre les grévistes et les manifestants.
Au Niger, 3 mois de prison avec sursis pour des figures de la société civile.
Jean-Pierre Bemba pour une candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC.
Au Zimbabwe, l'ONU dénonce des intimidations d'électeurs avant les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet.
Deux Américains rapatriés de Syrie et inculpés aux États-Unis pour collaboration avec le groupe État islamique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le temps monte en Guinée entre le gouvernement et les syndicats, excédé par les nombreuses manifestations, notamment contre la hausse de 25% du prix du carburant. Le Premier ministre guinéen a menacé de sévir contre ceux qui prennent, selon lui, le pays en otage. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Ibrahima Kassori Fofana s'exprimait à l'issue d'une rencontre hier entre le président Alpha Condé et des militants du parti présidentiel, le RPG. Au nom de quoi des partis politiques, des sociétés civiles, des syndicats peuvent-ils prendre en otage tout un pays? Lundi grève, mardi ville morte, mercredi marche. Montrez-moi un pays au monde où ça fonctionne comme ça. Ça n'existe pas, a tranché le Premier ministre guinéen sur la télévision publique. Je vais manier le bâton et la carotte, l'ordre public est l'une des priorités de mon gouvernement, a insisté Ibrahima Kassori Fofana. Le Premier ministre a accusé les opposants, les syndicats et la société civile de vouloir, je cite, empêcher le président de la République de gouverner et de travailler pour le bien du pays, alors qu'une grève générale illimitée contre la hausse du carburant a débuté hier. À Conakry, l'administration a tourné au ralenti, les transports urbains étaient rares et un service minimum était assuré dans les hôpitaux. Le mouvement était bien suivi dans la plupart des grandes villes du pays comme Labé, Pita, Kindia, Boké, Fria ou encore Nzérékoré. Cette grève avait été annoncée lundi après la dispersion par la police de deux marches organisées le même jour par la société civile et les syndicats pour réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant en vigueur depuis le 1er juillet.
En Guinée-Bissau voisine, les fonctionnaires ont entamé hier une nouvelle grève de 10 jours pour réclamer une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. La grève a été déclenchée par l'Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau, l'UNTG, la centrale majoritaire dans la fonction publique. À Bissau, la capitale, les ministères et bureaux de l'administration étaient fermés mardi et un service minimum était observé à l'hôpital Simão Mendes, le plus grand du pays, a constaté un journaliste de l'AFP.
Au Niger, condamnation à 3 mois de prison avec sursis des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre de manifestations de protestation contre la loi des finances 2018. Ali Idrissa Moussa Tchangari et Nou Arzika, ayant déjà passé 4 mois en détention, seront donc relâchés. Précision avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Sur les 3 chefs d'accusation pour lesquels ils étaient poursuivis, le juge a retenu un seul, provocation d'attroupement non armé. Et c'est pour cela qu'il les a condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie de sursis, ce qui signifie qu'ils vont sortir de prison ayant déjà passé 4 mois de détention. D'où la joie et la satisfaction de leurs camarades et parents. Barira Chebou, une des épouses de Ali Idrissa.
On remercie le bon Dieu, on remercie le juge, les avocats et tout le monde.
La décision de condamnation de 3 mois d'emprisonnement avec sursis concerne donc les principaux leaders de la société civile. 2 de leurs co-détenus, eux, ont été relaxés faute de preuves. 10 d'autres condamnés à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. C'est pourquoi le conseil d'avocats compte interjeter appel. Il faut rappeler qu'un autre groupe d'activistes de la société civile, détenu en avril dernier dans le même cadre des manifestations anti-loi des finances 2018, attend toujours que le juge fixe une date pour leur procès. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé qu'il sera de retour en RDC le 1er août prochain. et il a milité pour une candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018. Le président du mouvement de libération du Congo a échangé avec la presse mardi à Bruxelles, où il réside depuis sa libération provisoire de la Cour pénale internationale. Il est notamment revenu sur ses 10 années de détention à la CPI ainsi que sur l'actualité politique congolaise. Les détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
J'ai de l'expérience dans la gestion de l'État, j'ai un programme à présenter, soutient Jean-Pierre Bemba pour justifier sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Le président du mouvement de libération du Congo évoque également son retour au pays le mercredi 1er août 2018. Un retour selon lui sans idée de rancune ni de vengeance. « Je suis tourné vers l'avenir, je ne regarde plus vers le passé », précise-t-il avant de rappeler son souhait de voir l'opposition se désigner un candidat unique à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba regrette par ailleurs le non-respect par le pouvoir de l'accord du 31 décembre 2016 et rappelle que le président Kabila n'a pas droit à un troisième mandat consécutif. La constitution est claire à ce sujet. S'il se représente, ça sera un désastre pour le pays, souligne-t-il. Comme le leader du MLC, l'avocat et le directeur de cabinet de Moïse Katumbi étaient également face à la presse à Paris. Ils ont notamment annoncé le retour en RDC de Moïse Katumbi avant le 8 août prochain pour déposer sa candidature à la présidentielle. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les Nations Unies dénoncent des intimidations, des menaces de violence et de harcèlement d'électeurs avant les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet au Zimbabwe. L'ONU déplore également l'usage inquiétant de propos désobligeants à l'égard de femmes candidates. Les précisions d'Irene Herman Ngbo.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète du nombre croissant d'informations reçues en particulier dans les zones rurales concernant les intimidations d'électeurs, des menaces de violence, de harcèlement et de coercition, notamment de la part de personnes contraintes d'assister à des meetings politiques. L'organisation demande aux autorités et aux responsables de partis politiques et à leurs partisans de faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Elle salue l'élargissement de l'espace démocratique au Zimbabwe, notamment la tenue à Harare de manifestations pacifiques et des meetings politiques, tout en exhortant les acteurs politiques du pays à créer un environnement propice à un processus électoral crédible. Le président Emmerson Mnangagwa, membre de l'AZANU-PF au pouvoir depuis 1980, a promis des élections libres et justes. Il a également accepté la présence d'observateurs de l'Union européenne, du Commonwealth et d'organisations américaines, une première en 16 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux Américains accusés d'avoir collaboré avec le groupe État islamique en Syrie ont été rapatriés aux États-Unis pour y être jugés, a annoncé hier le ministère américain de la Justice. Ils étaient dans les centres de détention des forces démocratiques syriennes, les FDS. Cette coalition de combattants arabes et kurdes alliés des États-Unis détient plusieurs centaines de combattants étrangers et en rejoint l'organisation djihadiste à l'époque du califat qu'elle avait proclamé sur une vaste zone couvrant le nord de la Syrie et une partie de l'Irak.
L'administration Trump a annoncé mardi qu'elle allait accorder une aide financière substantielle aux agriculteurs affectés par les représailles aux tarifs douaniers visant la Chine, l'Union européenne ou encore le Canada. Le secrétaire américain à l'agriculture, Sonny Perdue, a indiqué que 12 milliards de dollars d'aide seraient accordés aux agriculteurs mis en difficulté par les représailles tarifaires illégales. Par cette mesure, la Maison-Blanche semble reconnaître l'effet négatif sur certains producteurs américains, effet qu'elle qualifie cependant de temporaire.
Le président Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker. M. Trump menace régulièrement de franchir un nouveau cap en l'absence de concessions de la part de Bruxelles. Imposer des droits de douane sur les importations de voitures européennes, ce qui inquiète particulièrement l'Allemagne où ce secteur clé emploie quelques 800 000 personnes.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit répondre aujourd'hui aux questions des membres de la commission sénatoriale des affaires étrangères sur le récent tête-à-tête controversé d'Helsinki entre le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine et aussi sur le sommet du 12 juin dernier à Singapour entre M. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le peuple américain a le droit de savoir ce que le président peut avoir promis au président Poutine à Helsinki, a dit le vice-président démocrate de la commission Bob Menendez, qui travaille à une proposition de loi bipartisane pour renforcer les sanctions contre la Russie.
Pour sa part, le président Trump a salué hier le début de démantèlement par la Corée du Nord des infrastructures sur sa principale base de lancement de satellites six semaines après, je cite, sa rencontre fantastique avec Kim Jong-un à Singapour. M. Trump parlait ici des images satellites publiées par le site internet respecté 38 North de la base de lancement de satellites de Soarek, considérée comme site d'essai pour les milices balistiques intercontinentaux de Pyongyang.
Vous écoutez le journal.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'administration Trump a annoncé une aide d'urgence de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs américains affectés par les représailles aux tarifs douaniers américains sur l'acier, l'aluminium ou les taxes sur les dizaines de milliards d'importations chinoises. C'est notamment des producteurs de soja, de porc, de fruits, de riz et de lait. Ceci confirme les premiers dommages collatéraux du conflit commercial déclenché par le président Donald Trump. Cependant, ces subventions sont une solution à court terme en attendant que les négociations aboutissent à un accord commercial à long terme. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a inauguré mardi 3 centrales électriques d'une valeur de 6 milliards d'euros et produiront 14 400 MW. L'OCAIR vise à sortir le pays de sa pénurie chronique d'électricité. Depuis 2014, le pays a investi 25 milliards d'euros dans des projets énergétiques pour tenter de diversifier ses sources d'énergie, autrefois constituées à 90% de gaz naturel. Le Maroc et l'Union européenne ont conclu ce mardi à Rabat leur nouvel accord de pêche. L'accord permet aux navires de l'Union européenne d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique qui passe à 52,2 millions d'euros par an et représente une augmentation de 30%. Les négociations ont duré 3 mois. Le nouvel accord devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mohamed Salah nommé dans la catégorie meilleur joueur de l'année.
Et oui, auteur d'une saison 2017-2018 de feu avec Liverpool, 44 buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues, l'ailier égyptien figure dans la liste des 10 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Déjà élu joueur de l'année en Premier League, le pharaon se retrouve aux côtés de superstars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et des champions du monde français Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. Neymar est par contre absent de cette liste. Le lauréat sera désigné le 24 septembre prochain à Londres.
Cannes 2021, une visite d'inspection en Côte d'Ivoire.
Même si sa priorité concerne le bon avancement des travaux pour la Cannes 2019 au Cameroun, la CAF a débuté hier une visite d'inspection en Côte d'Ivoire, pays hôte de la Cannes 2021. La délégation est conduite par le secrétaire général de l'instance africaine de football, Amr Fahmy, et va y séjourner jusqu'au 31 juillet. Elle a pour mission de s'enquérir de l'existence ou du début de réalisation des infrastructures sportives et hôtelières à 3 ans de la Cannes 2021. Les sites d'Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et San Pedro vont ainsi être inspectés.
Transfert Barcelone a coiffé Rome au poteau pour s'offrir Malcolm.
In extremis, le FC Barcelone a officialisé hier l'arrivée pour 5 saisons du jeune ailier brésilien Malcolm, 21 ans, après le blocage au dernier moment de son transfert des Girondins de Bordeaux vers l'AS Rome. Avec 41 millions d'euros offerts, les Catalans ont réussi un véritable coup de poker en dépassant l'offre des Italiens, 38 millions d'euros, bonus compris. Le club français a signé par là le transfert le plus onéreux de son histoire.
NBA pour terminer, Kevin Love a prolongé avec les Cavaliers.
Oui, l'intérieur intérieur All-Star a prolongé avec les Cavaliers en signant un contrat de plusieurs années, d'après l'annonce faite par la franchise de Cleveland qui cherche à consolider son effectif après le départ de sa méga star LeBron James. La prolongation se chiffre à 120 millions de dollars sur 4 ans, selon la presse américaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoulia, maintenant, nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, la toxicomanie devient un réel défi pour les autorités et les associations venant en aide à ces victimes. L'apparition de nouvelles méthodes de partage et d'injection de substances illicites rend de plus en plus compliquée la lutte contre ce fléau. Tousso Kumalo est allé à la rencontre de ceux qui ont décidé de mettre un frein aux abus de drogue dans les rues de Johannesburg. Michel Joseph.
Sibuzio Vilakazi vit à Johannesburg. Cet ancien toxicomane de 32 ans mène désormais une vie rangée. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas touché à la drogue. Passionné de photographie, il arpente les rues pour rendre de beaux clichés et surtout pour convaincre ceux qui souffrent toujours de leur addiction de décrocher et de mener une vie saine et sans drogue. En fonction de leur état, il leur conseille d'aller soit dans une clinique, soit dans un centre de désintoxication. Sibuzio Vilakazi, ancien toxicomane.
Ils en connaissent les dangers, ils savent ce que la drogue leur fait. Certains d'entre eux se disent qu'il n'y a pas de raison pour eux d'arrêter, car ils vont tout simplement revenir à la réalité, à leurs problèmes. Ils pensent qu'en prenant de la drogue, ils se débarrassent de leurs problèmes.
À Johannesburg, les forces de l'ordre sont aux trousses des trafiquants. Ils espèrent ainsi enrayer le business illégal de la vente de stupéfiants. Wayne Minar a, par conséquent, donné l'ordre à ses officiers de nettoyer les rues pour en finir avec la drogue. Wayne Minar, porte-parole du département de police de Johannesburg.
Nous voulons rendre belle notre ville. Toutes les lois doivent être respectées.
La police, les assistants sociaux et les volontaires, tous sont unis pour faire face au fléau qu'est la drogue en Afrique du Sud. Quant à Sibuzio Vilakazi, il espère un jour ouvrir son propre centre de désintoxication pour venir en aide à ceux qui souffrent de ce mal qu'il a lui-même connu auparavant.
En République démocratique du Congo, la montée des cas de violation des droits de l'homme à l'approche de la présidentielle et des législatives du 23 décembre inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Selon un récent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, entre janvier et juin 2018, ce bureau a documenté plus de 3310 cas de violation ou atteinte aux droits de l'homme en RDC. Ernesto Mouero a rencontré des défenseurs des droits de l'homme du Sud Kivu.
Ces rapports révèlent des violations généralisées des droits civils et politiques, une augmentation de près de 500 cas des incidents des violations des droits de l'homme par rapport aux cas documentés de janvier à juin 2017, remarqué Maître Justin Bayiroué, coordonnateur des SOS IJM et observateur permanent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, déplore cette augmentation.
Tout ce qui est contenu dans ces rapports relève ou fait la photographie de la situation des droits humains dans notre pays. Nous décrions cet état de choses et on demande à notre gouvernement de faire en sorte qu'il puisse relever ces défis. Comme pays siégeant au Conseil des droits de l'homme, il est censé refléter les bons élèves.
Pour Maître Arnold Denialuma, avocat à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et doyen de la faculté des droits à l'Université catholique de Bukavu, il est inacceptable que dans un état des droits, en 6 mois, 222 cas de menaces et violations des droits de l'homme soient documentés à l'encontre des 141 défenseurs des droits de l'homme et 39 journalistes selon ses rapports.
Cette période, nous allons vers la période électorale. Si on muselle la presse, il n'y a pas de démocratie. Si des journalistes vont avoir peur d'aborder des questions de société, puisqu'ils peuvent être menacés, ça signifie que nous sommes en train de tuer l'état de droit sur lequel nous sommes assis.
Le rapport révèle également 499 cas documentés des violations liées à la restriction de l'espace démocratique, alors qu'en 2015, il n'y en avait que 290. 120 cas des décès des personnes en détention, 779 violations dont les exécutions extrajudiciaires commises par les agents de la police et 245 victimes des violences sexuelles. Solange Loachiga du mouvement Rien sans les femmes réagit.
C'est un indice inquiétant et nous sommes en train de voir qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Nous voulons ainsi lancer un appel à la communauté internationale afin que la situation des violations des droits humains ne puisse pas se dégrader davantage au courant de cette période électorale qui s'annonce.
Alors que parmi les provinces affectées par des conflits figurent le Nord Kivu, l'Ituri, les Kasaï et le Sud Kivu, Maître Justin Bahiroué s'étonne que depuis juillet, les défenseurs des droits de l'homme du Sud Kivu n'aient plus d'interlocuteur.
Nous avons tous été surpris de constater que le gouverneur de province a supprimé de manière expresse le ministère de la Justice et des droits humains. Ça s'appelle une régression en matière de mise en œuvre des droits humains. Nous sommes maintenant l'unique province qui n'a pas d'interlocuteur. C'est pas normal.
Selon ces rapports du BCNUDH, dans les provinces affectées par les conflits, 45% des violations sont commises par les groupes armés et 55% attribuables aux agents de l'État. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Mali, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Ba, a renvoyé toutes les questions concernant le fichier électoral à la Direction générale des élections, structure administrative chargée de l'organisation matérielle du scrutin. C'est que depuis le week-end, l'opposition parle de plus de 100 000 électeurs fictifs. Comment la société civile malienne voit-elle cette crise ? Pour une réponse, Bagassi Koura a joint Kabey Boubou, président de la société civile de Bougouni, petite ville à une soixantaine de kilomètres au sud de Bamako.
Bon, quand on a entendu le bruit, ça nous a inquiété, ça nous a effrayé, parce qu'il y a quelque chose que nous inquiétons, ça c'est les conflits post-électoraux. Ça, on en a vraiment, on s'inquiète beaucoup pour ça. Alors, si l'opposition crie qu'il y a un autre fichier autre que celui-là qui est à la disposition de l'administration, là, ça pose problème, ou bien?
Oui, ça c'est juste, mais finalement, qu'en est-il? Est-ce que vous avez essayé d'en savoir davantage?
Voilà, par endroit, on a demandé à nous informer davantage avant que même le gouvernement ne fasse une déclaration contraire sur les antennes de l'ORTM.
La radio nationale.
Alors, la télévision nationale et la radio. Voilà. Donc, moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai demandé au niveau supérieur. Moi, je suis au niveau local, donc régional et national, on a essayé de comprendre réellement ce que l'opposition dit. Est-ce qu'ils en ont la confirmation? Bon, personne ne nous a dit qu'il a effectivement vu ces fichiers-là. Et par ailleurs, je crois que même s'il y avait une part de vérité dedans, il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est exprimée pour dire que le seul fichier disponible aujourd'hui, c'est le fichier qu'eux, ils ont eu à auditer. Et que c'est ce fichier-là qui est en ligne. Et là, ça nous a tranquillisé.
Et est-ce que l'opposition a finalement laissé tomber et est rassurée à son niveau aussi?
Je crois que les ardeurs se sont calmées quand ils ont rencontré le Premier ministre. Parce que par rapport à la situation, je crois que le Premier ministre a apporté des arguments valables. En tout cas, il y a deux ou trois jours, on n'en parle plus.
Alors, vous, au niveau de la société civile, est-ce que vous avez d'autres inquiétudes par rapport à ces élections?
Bon. L'inquiétude, nous ici, on a constaté que tout le matériel électoral est sur place, les documents électoraux sont à 80% sur place. Et maintenant, la formation des agents électoraux a commencé et la CENI a recruté des délégués. Vous savez que la CENI met un délégué par bureau de vote sur toute l'étendue du territoire et que ce recrutement aussi a été fait. Et maintenant, les partis politiques ont été autorisés, ceux de l'opposition et ceux de la majorité, à fournir des agents électoraux qui seront des assesseurs. Et les deux autres assesseurs sont fournis par l'administration. Alors ça, c'est des situations qui vont dans le sens où, dans les conditions normales, tout le monde doit accepter les résultats des élections. Donc là, ça nous permet d'avoir vraiment d'être serein et puis dire que tout doit se passer, en tout cas, normalement. Alors, mais c'est des élections, et les élections en Afrique, ça fait peur tant que Alors les candidats de l'opposition, bien les vaincus, ne s'expriment pas pour apporter en tout cas la calme nécessaire.
Joint au Mali, Kavei Boubou, président de la société civile de Bougouni.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, une stèle a été érigée à la mémoire des victimes du crash du vol Air Algérie survenu à Boulikessi au Mali en 2014 et qui avait fait 116 victimes. Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
4 ans après le crash du vol Air Algérie AH-5017, les familles des victimes ne sont pas prêtes à faire le deuil. À Ouagadougou, les familles des victimes se sont retrouvées pour inaugurer une stèle. L'émotion et la tristesse étaient palpables. Les représentants des victimes, visiblement sous le choc, Sandrine Tricot, présidente de l'Association française des familles des victimes.
Nous avons appris à vivre sans vous, avec le manque, l'infinie tristesse qui ronge.
Les parents des victimes de ce crash ont des doléances, surtout ceux du Burkina. Ils demandent que toute la lumière soit faite sur cet accident. Christophe Sanouidi, secrétaire général de l'association burkinabé des familles des victimes.
Les familles espèrent que le volet pénal sera traité avec diligence pour que les responsabilités soient enfin situées. Elles prennent acte du processus d'indemnisation en cours et marquent leur déception 4 ans après la survenue de ce drame. Principalement, les familles burkinabées qui ne se sont toujours pas rentrées en possession de leurs droits.
C'est la désolation et la tristesse aussi du côté des responsables de la compagnie Air Algérie. Alech Bakouche est le PDG.
Aujourd'hui, nous sommes là pour nous recueillir devant cette stèle érigée en hommage aux victimes innocentes de ce malheureux événement qui a bouleversé et endeuillé tant de familles.
C'est le président du Faso, Roch Kabore, qui a procédé au dévoilement de la stèle. Une colonne tient entre ses ailes un livre sur lequel est mentionné le nom des 116 victimes. Le ministre des Transports donne le sens de la stèle érigée, Vincent Dabilgou.
Pour les parents des victimes, ce monument vous rappellera certes des souvenirs douloureux d'époux, d'épouses ou d'enfants brutalement arrachés à vos affections. Mais il y a également le témoignage éclatant de l'amour et de l'amitié que nous leur garderons pour toujours.
Le président Kabore ainsi que les familles des victimes ont procédé à des dépôts de gerbes de fleurs sur la stèle. Les 116 victimes sont issues de 17 nationalités. Le drapeau de chaque pays flotte autour de la stèle. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633, c'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Tu te belles et tu nous chemins en croix.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges-Léonard Sagno pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.